Donc, bienvenue pour cette rencontre, donc cette neuvième rencontre des mercredis bibliques à l'oratoire pendant les mois de juillet et août. Et donc là, on suivait au cours du mois d'août un petit peu le plan que nous donne le Notre Père sur la prière. Donc le quatrième point, ce serait « délivre-nous du mal », voilà. Donc c'est la lamentation, la supplication, demander à Dieu vraiment son secours. Alors, j'avais proposé d'abord la contemplation, ensuite donne-nous à manger le pain quotidien. Voilà, c'était l'idée de demander à Dieu qui nous aide à grandir, évoluer. Pardonne-nous comme nous pardonnons, la question de la repentance, du pardon. Et maintenant, délivre-nous du mal. Alors, c'est une question un peu délicate parce que on pourrait penser que ça peut tourner à la superstition. Vous voyez, on prie Dieu pour qu'il nous donne de la chance, qu'on ne tombe pas malade, que la foudre ne tombe pas sur la maison. Alors ça pose une question, bien entendu. C'est délivre-nous du mal qui peut nous arriver. Ou alors il peut y avoir aussi un risque de choses surnaturelles. Vous voyez, délivre-nous du mal avec un grand M, c'est délivre-nous du diable, de Satan, de ses pompes, on dit, hein, aussi, et de ses œuvres. Je ne sais pas pourquoi on dit les pompes. C'est pas les... Non, on disait ça, non ? Délivre-nous de Satan, de ses pompes et de ses œuvres. Mais en fait, les pompes, ce n'est pas les chaussures. Hein, C'est les fastes, c'est peut-être la gloire, rendre gloire à Satan. Bon, si vous voulez, moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait une sorte de Dieu méchant comme ça, parce que, bon, la Bible est quand même radicalement monothéiste. Donc, il y a quelques passages qui mettent le diable en scène, si je puis dire, dans, par exemple, comme Job, mais c'est un peu une pièce de théâtre théologique, si vous voulez, et spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'il croit en l'existence d'un Dieu méchant. C'est très discutable. Il y a des gens qui y croient, on a le droit d'y croire, bien sûr. Hein. Moi, il me semble globalement que c'est plutôt le diabolique qui est en nous, si vous voulez, ce qui est satanique en nous, c'est-à-dire ce qui est en nous est source de souffrance, de mort. Alors en nous, je dis en chacun de nous individuellement, mais dans l'humanité aussi, c'est ce pouvoir de création que l'homme a qui peut être mis au service, non pas d'une bonne créativité, mais au service d'une négativité, de déconstruire, de faire du mal, de mettre de la haine. Et donc là, on pourrait dire que c'est diabolique au sens littéral du terme, c'est-à-dire qui disperse, qui divise. Alors, est-ce qu'il existe... Bonsoir, il faut prendre une petite feuille, tiens, sur la chaise. Donc, moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait comme ça un Dieu méchant, pour plusieurs raisons, pour le monothéisme, aussi parce qu'il me semble que ça explique mal, si vous voulez, la réalité du mal dans le monde. Et puis qu'en même temps, c'est un peu facile de dire le mal nous est extérieur, on est infecté par quelque chose d'extérieur, alors qu'en fait, on le sait bien, et c'est un peu la lecture de début de la Genèse, le mal, il est de deux sortes, si on regarde dans la Genèse. Il y a le chaos primordial, et Dieu qui ordonne le chaos avec son souffle, sa lumière. Et puis il y a du chaos dans le péché de l'homme qui choisit délibérément de dire ben non, mon Dieu à moi, celui que je vais honorer, glorifier avec pompe, donc hein, c'est mon désir de l'instant. Et c'est le péché originel, le péché primordial, le péché fondamental de chacun peut-être. C'est la deuxième source de mal, mais là c'est plus du mal, voilà, du mal combiné, du mal avec projet, du mal organisé. C'est le problème de la liberté, c'est le problème, voilà, c'est ça. Et puis le deuxième problème, c'est le chaos de la nature, le chaos qui est à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Donc, mais là-dedans, ni dans l'un ni dans l'autre, on voit dans cette création de la Genèse une source de mal personnifiée que serait le diable, les démons, etc. Ça, c'est quand même plus une théologie babylonienne, dualiste comme les zoroastriens, avec un dieu bon et un dieu méchant, un dieu de la lumière, un dieu des ténèbres, soit polythéisme avec, voilà, toute une panoplie de dieux méchants et puis une panoplie de dieux bons qui est venue se décalquer, si vous voulez, dans notre théologie avec Dieu et ses anges, le diable et ses démons, à mon avis, c'est plus de la mythologie, et il est intéressant, pour moi, hein, ben après, chacun fait ce qu'il entend, hein, mais de dire ici, bon, délivre-nous du mal, c'est le mal. Alors c'est ambigu, parce qu'on ne sait pas si c'est un neutre ou un masculin, dans le grec. Si c'est un neutre, c'est le mal qui nous arrive. C'est une inquiétude légitime. Le deuxième, délivre-nous du mal avec un grand M, c'est pas inintéressant, ça veut dire délivre-nous de la source du mal, en fait. Les forces du mal qui sont en nous, qui sont dans le monde. Vous voyez, c'est l'égoïsme, c'est la peur, la colère, l'orgueil, enfin, je sais pas, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on connaît tous, en fait. Voilà, donc c'est par rapport à ça, délivre-nous du mal, à mon avis, c'est un peu par rapport à cela. Et c'est vrai qu'il y a une progression un peu dans les demandes du Notre Père, dans la demande de pardon pour le mal que nous avons fait, le mal qu'on nous a fait, une aide peut-être aussi à ne pas entrer dans la tentation, donc l'aide de Dieu à nos côtés contre le mal du péché, finalement. Et puis finalement, dans la dernière demande, délivre-nous du mal, c'est délivrer... de la source du mal qui est en nous, qui nous conduit à faire le mal, qui est en amont même de la tentation, j'allais dire, vous voyez. Et puis aussi, peut-être, bah, le mal, oui, qui est dans le monde,
qui est chez les autres aussi,
qui est dans l'humanité. Et puis dans le mal aussi, c'est un neutre, bah, c'est aussi le chaos de la nature, les catastrophes, les cancers qui nous tombent sur le coin de la figure, et ce genre de joyeuseté. Voilà. Et donc, c'est par rapport à ça qu'on entre dans la prière, finalement, d'appel au secours de Dieu. Et à mon avis, on va voir, je trouve que ce psaume est pas mal, c'est le psaume 142. Donc, on peut entrer directement dans le texte, je pense, hein. Alors, j'ai mis le texte en interlinéaire hébreu français sur la gauche, ça permet de voir le mot à mot. Ce qui n'est pas inintéressant, parce que ceux qui font le mot à mot comme ça, ils font très attention. D'abord, ils ne peuvent pas inventer des mots en plus. Ce n'est pas facile. Et puis, ils font très attention au temps des verbes. Alors que parfois, on va le voir, l'auteur, bon, il brode un petit peu, vous voyez, le traducteur. Et à droite, j'ai mis le texte français, puis des petites propositions de correction de traduction que j'ai mis à droite. Poème de David. Alors, poème, là, hein, il y a mashkil, on voit en hébreu, c'est le discernement. Alors, je parlais là justement du péché originel avec Adam et Ève qui sont au pied de l'arbre et tout bien. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit l'arbre, mais en fait, il a l'air drôlement bon à manger, agréable à voir à l'œil et propre à donner du discernement. Eh bien, discernement, c'est le même mot que mashkil ici pour poème, si vous voulez. Donc, poème, c'est plutôt un éclairage, c'est plutôt une vision, c'est plutôt, vous voyez, c'est en rapport avec le discernement, c'est une lucidité, peut-être quelque chose comme ça. Moi, je dirais, je ne sais pas quoi, je crois que Chouraki, il met illumination de David, je ne sais pas quoi. Traduction d'un hébreu qui essaye de traduire toujours le côté un peu paradoxal du texte hébreu, d'en rendre compte dans une traduction en français. En tout cas, c'est un peu comme ça que marche l'hébreu. C'est que là, il y a Mashkil, mais pour l'hébreu qui a appris par cœur dans son catéchisme l'histoire de la création d'Adam et Ève, chacal, là, ce qui donne du discernement, ce qui donne de l'éclairage, pour lui, ça fait un peu tilt, si vous voulez. On est dans une supplication, délivre-nous du mal. Tout d'un coup, il y a cet écho, vous voyez, un peu subliminal, peut-être, de ce mot qui est déjà dans son histoire fondamentale de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, qui donne du discernement à Adam et Ève, et qui, du coup, devient tentant. Donc, c'est... une source de lumière pour David, voilà, dont il essaye de rendre compte comme ça. Alors peut-être ça éclaire aussi, et c'est le cas de le dire, un peu le sens de ce qu'il découvre dans sa prière, au milieu du mal peut-être. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'un éclairage, d'une lumière peut-être.
C'est un appel.
C'est plus un poème, c'est plus un éclairage. Alors, après, l'appel, il va apparaître surtout à partir du verset, à partir du verset 6, voilà. Hein. Ça commence finalement au début. Alors, au début, le premier verset, vous voyez, c'est pas vraiment dans le psaume. C'est les circonstances, c'est un petit peu l'entête, l'intitulé du psaume, c'est ça, dans le poème de David, lorsqu'il était dans la caverne, prière. Ensuite, c'est pas vraiment dans le psaume, parce que le psaume, il commence au verset 2. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que ces circonstances de David dans la caverne, on voit de quoi ça peut éventuellement parler, parce que dans 2 Samuel, on voit l'histoire de David, vous connaissez un peu l'anecdote peut-être. Les Hébreux voulent absolument un roi, Dieu leur dit c'est une mauvaise idée, ils insistent beaucoup, ils disent bon je vais vous donner, j'essaye de trouver le meilleur que je puisse, je trouve Saül, bon, ça tourne au vinaigre. Donc Dieu se dit, dans le récit, mince, comment faire, ben, je vais choisir un successeur qui fera mieux, quoi. Il choisit David. Donc à ce moment-là, il y a Saül qui est roi, qui a reçu l'onction d'huile, tout bien ce qu'il faut et tout, et puis il y a David qui a reçu aussi l'onction pour être le successeur. Du coup, imaginez, l'ambiance est un peu chaude. Hein. Du coup, Saül, il passe son temps à courir après David pour lui couper la gorge. Et puis, David, il passe son temps à courir dans tous les sens pour essayer de se cacher dans les coins. Et David est assez sympa, finalement, parce qu'au lieu de tuer Saül quand il en a l'occasion, il dit, ben non, en fait, c'est le roi qui a été nommé par Dieu, je ne peux pas porter la main contre lui. Donc, il essaye de se faufiler. Donc là, il est dans la caverne. Il s'est réfugié dans une caverne. Deux fois, ça arrive. Samuel 22 et puis 1 Samuel 24. Il est caché dans une caverne pour essayer de fuir les soldats de Saül et puis pour vivre dans un peu à l'abri dans la nature. Alors c'est sympa d'aller plutôt demander son secours à Dieu plutôt que d'agir par la violence, par ses propres forces uniquement, vous voyez. C'est donc une belle démarche, ça rappelle un bel épisode quand même de la Bible, c'est vrai. En même temps, vous voyez, ils ont mis ces circonstances particulières dans le début du psaume. Ça, vous le retrouverez souvent dans les psaumes. Le reste du psaume est très général, ce qui permet de venir nous l'habiter avec nos propres détresses. On parle d'ennemis qui se fichent de notre poire. Chacun les siens, si vous voulez, intérieur ou extérieur. Ensuite, on parle de difficultés, d'être captif. Alors, ou d'être dans le noir, dans l'obscurité, ça peut être la caverne, il est enfermé là-dedans, il essaie de fuir, il ne sait pas comment s'en sortir. Ça peut être vrai littéralement pour David, mais comme ils ont mis les circonstances pratiques au début, nous on peut venir habiter au milieu le psaume, la prière du psaume, on peut venir l'habiter avec nos propres enfermements, nos propres difficultés, nos propres ennemis. Donc c'est bien ça. Donc si vous voulez, on pourrait dire... Peut-être que David a prié comme ça, exactement pile poil. À mon avis, tel que c'est présenté, il a peut-être prié comme ça, mais ça a été retransformé pour faciliter l'appropriation par le lecteur. Donc ils ont enlevé les circonstances particulières du verset 2 au verset 8 pour les mettre dans le verset 1. Mais alors ensuite, c'est vrai que ce n'est pas non plus inintéressant, parce que l'idée de la grotte, de la caverne, ben on peut y voir aussi, si vous voulez, une relecture facile pour nous. On est d'enfermement, d'oppression, et puis si vous voulez, nous on cherche une élévation, vous voyez, s'élever dans les cieux, quoi, j'allais dire, dans des idées élevées, dans un idéal, pour voir les choses de haut, et puis pour être dans cette liberté de l'espace. Ben, là, il a dû s'enfoncer dans le sol, vous voyez, pour s'en sortir. Et ça peut être aussi, donc, psychologiquement, un peu l'image, vous voyez, quand on s'enfonce, en fait, on s'enfonce sous terre, si vous voulez.
Pour se mettre à l'abri.
Alors ça peut être pour se mettre à l'abri, ça peut être aussi tellement oppressé par les difficultés, par l'angoisse, la peur, la maladie, les difficultés, on ne sait pas comment s'en sortir, des difficultés financières. Bah, du coup, on s'enferme dans la gestion du matériel pur, parce qu'on a la tête à peine hors de l'eau, et donc on essaye de s'en sortir, on rame, et du coup on est comme sous terre, si vous voulez. Et donc avec... vous voyez, c'est quand même parlant comme image. C'est pas simplement l'anecdote de David qui fuit, machin. C'est aussi, je trouve, l'image de la grotte, d'être enfoncé, trouver refuge sous terre. Quelque chose, malheureusement, qui peut être parlant pour nous aussi dans nos difficultés de vie. Non ? Je sais pas ce que vous en pensez. C'est assez parlant. Alors, il y a une relecture aussi classique du Christ. On dit que le Christ aurait prié cette prière, par exemple, à Gethsémané, parce que ça correspond assez bien. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'y a personne pour le soutenir, tout le monde l'a trahi, abandonné, et puis il est menacé dans sa vie, il est coincé, acculé, si vous voulez, sans savoir comment pouvoir s'en sortir. Donc, il y a cette relecture... de Jésus à Gethsémané ou sur la croix peut-être aussi. Donc je vous propose de la lire, comme ça ça permettra d'avoir une petite vue d'ensemble, et puis ensuite on continuera peut-être le mot à mot de ce psaume. De ma voix je crie vers l'Éternel, de ma voix je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui, j'expose devant lui ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je dois marcher, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite et vois. Personne ne me reconnaît. Toute fuite m'est impossible. Nul ne s'inquiète de ma vie. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, car je suis très affaibli. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais sortir mon âme de la prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Alors ces psaumes, on peut en faire un usage pour nous aider à entrer dans la prière, et on peut faire un usage pour faire de la théologie. Alors c'est ce que nous faisons aujourd'hui. On fait de la théologie, on essaie de décortiquer, on se place au-dessus du texte et on dit qu'est-ce qu'il y a marqué là, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, on a le droit de faire ça. On peut faire aussi une lecture priante, et ces textes, ces psaumes, on peut, quand on les connaît, ça peut rendre de grands services pour... on est dans la détresse, je vais chercher le psaume 142, et ça nous aide à prier quand on n'arrive plus, justement, qu'on est dans la caverne enfermée. Ça peut nous aider à entrer dans la prière pour retrouver souffle. Et dans un sens, c'est un peu ce qu'est au début, les versets 2 et 3. C'est un petit peu... il se prépare, si vous voulez, se prépare à la prière. C'est un peu de se rassembler soi-même pour se mettre à prier. Parce que de ma voix, je crie vers l'Éternel. Vous voyez, le « de », il n'est pas dedans. Ma voix, je crie vers l'Éternel. Il se prie lui-même dans un sens. Et il essaye de s'encourager à entrer dans la prière, et dans une prière à haute voix. Une prière exprimée, vous voyez. Et donc, il se rassemble pour prier. Alors ensuite, peut-être les versets 4 à 6, c'est un peu de la contemplation. Il pense au secours que Dieu peut apporter, lui a déjà peut-être apporté. Et puis ensuite, 7 et 8, 6, 7, 8, c'est plus à proprement parler la lamentation, l'appel au secours de Dieu. Donc là, il y a peut-être ces trois étapes qu'on peut aussi avoir dans notre prière personnelle, se dire, je vais me mettre à prier volontairement, consciemment, pour entrer en prière. Ensuite, un peu de contemplation, de se rappeler Dieu, de se placer face à lui. Alors, vous voyez, au début, on pense un peu à l'Éternel, et puis il y a la deuxième personne, elle apparaît au verset 4, et après, ça ne part plus, c'est tout le temps la deuxième personne. Donc là, on a vraiment de la prière. Dans d'autres psaumes, il y a un aller-retour entre la deuxième personne et puis... bonjour madame, vous avez une petite feuille sur la chaise. Un aller-retour entre la deuxième personne et la troisième personne, entre la méditation, comme au début de ce psaume, et puis la vraie prière où on est en contact avec Dieu. Donc on a le droit, si vous voulez, que la présence de Dieu, ça soit que par éclair à certains moments, et puis qu'ensuite, eh bien, on retourne dans la pensée sur Dieu. Voilà, on a le droit, bien sûr, hein, on fait comme on peut. Ici, voilà, il y a vraiment au verset 4, comme tout d'un coup, Dieu est face à face, vous voyez. Alors, soit on le sent, soit on ne le sent pas. Si on ne le sent pas, on peut faire comme si Dieu était là et qu'il entend dans le secret, je le pense. En tout cas, c'est la promesse de Jésus à la fin de l'évangile selon Matthieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc on peut compter dessus. Mais en tout cas, c'est ce que lui fait. Il entre en prière par le verset 2. Il crie vers l'Éternel alors qu'il n'est pas là, puisqu'il l'appelle, il en parle à la troisième personne. Voilà, voilà. Alors il s'exhorte lui-même à entrer dans cette prière. Je crois que c'est utile effectivement d'exprimer ainsi ce qui ne va pas dans son existence. Donc, de ma voix, c'est-à-dire, bon, on n'est pas prié à haute voix non plus, mais si on peut le faire, pourquoi pas, ça peut être aussi...
Ça peut être la voix intérieure aussi.
Ça peut être la voix intérieure aussi, voilà. Pour ceux qui habitent avec d'autres, on n'a pas forcément non plus envie de passer pour un clone, bien que ça ne ferait pas forcément passer pour un clone que de prier à haute voix. Dans notre sens, c'est très intime, à mon avis, la relation à Dieu, on n'a pas forcément non plus besoin de la publier, la crier sur les toits non plus. C'est très intime, donc il faut qu'il y ait cette intimité. Bon, c'est peut-être pour ça que Jésus conseille de prier porte fermée. En tout cas, le fait de dire effectivement sa supplication, son cri, sa détresse, à mon avis, c'est fort utile. Parce que vous voyez, quand on commence à la dire, à dire, bon, mais voilà, quel est le problème? Quel est vraiment mon problème, ma détresse, mon souci Mais déjà, vous voyez, ça l'objective un peu. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose qu'on sort à la limite de soi-même pour dire, ben voilà, quel est mon problème sur lequel je veux travailler avec l'aide de Dieu aujourd'hui. Ça l'objective déjà. Et ensuite, on en fait le tour avec la prière, on en fait le tour avec notre voix qui crie à Dieu, notre supplication, notre contemplation, notre louange, notre espérance. Et ça me fait penser à Josué, si vous voulez, puisque je parlais de la libération hors d'Égypte. Il arrive en terre promise. Il traverse le Jourdain, badaboum, il tombe sur Jéricho, une forteresse imprenable. Vous connaissez l'anecdote, ils font le tour 7 fois, 7 jours de suite, avec l'arche d'alliance, les trompettes et tout bien, les chauffards, et ils font le tour, et puis le 7e jour, les murailles s'écroulent, et ils ont l'ordre par Dieu, de zigouiller, de tuer tout le monde, hommes comme femmes, vieillards, nouveau-nés, gros bétail et petit bétail. Mais c'est un peu comme ça dans cette histoire, sauf que bon, là, c'est pas présenté comme un récit, c'est spirituel, ce qui est quand même plus agréable à entendre. Mais c'est un peu ça. On entre, on tombe sur un os et un gros, quoi, un truc imprenable, un ennemi imprenable. On peut en faire le tour, si vous voulez, avec la parole de Dieu, avec la méditation, avec la contemplation, avec la prière, avec sa voix, en faire le tour du problème 7 jours de suite. Et finalement, les murailles s'écroulent, et ensuite, pas de quartier, c'est-à-dire qu'on peut éliminer complètement son ennemi. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller trucider le voisin qui met sa télé trop fort, c'est peut se négocier autrement que ça. Non, c'est vrai, je crois que l'histoire de Jéricho, il ne faut pas la lire, bien sûr, littéralement, mais spirituellement, c'est quand même bien ça. Bonjour Michel, il y a une petite feuille sur la chaise. Spirituellement, c'est bien ça, vous voyez, c'est qu'on peut faire le tour quand même de ce qui ne va pas dans sa méditation, dans sa prière, dans sa contemplation, pour arriver ensuite à avoir miraculeusement la victoire. Miraculeusement, la victoire sur nos ennemis qui venaient nous bloquer.
Mais on a un peu sauté, ne nous en dit pas en tentation. En l'histoire, David justement tombe sur Saül des armées. Donc c'est à la fois la tentation et c'est à la fois le moment de réfléchir. Donc ça veut dire que franchement, c'est. Il n'y a pas à confondre parfois à l'art, à Dieu, enfin bon.
Il était plus fort que la tentation, c'est vrai.
Oui, mais la tentation leur propose une réflexion. Alors, est-ce que non-dit ne nous mène pas en tentation ?
Moi, c'est pour ça que vous avez entendu au culte, je dis ne nous abandonne pas dans la tentation. Ce n'est pas une traduction très littérale, parce qu'il y a marqué littéralement fait que nous ne soyons pas conduits à l'intérieur de la tentation, que nous ne soyons pas conduits dans l'enfermement sous la tentation.
Si enfin, on apprenait, ne nous laisse pas succomber à la tentation.
Ne nous laisse pas succomber à la tentation, c'est quand même mieux.
C'est ce qu'on apprenait quand on...
Moi, il me semble. La nouvelle traduction proposée par l'Église catholique, d'accord d'ailleurs avec les églises protestantes, c'est « ne nous laisse pas entrer », ce qui est pas mal non plus. Moi, si je mets « ne nous abandonne pas », c'est parce que je trouve que ça me rappelle, il y a « donne, pardonne, abandonne », je trouve que c'est joli, bon. Et puis, je dis « c'est bien ça », c'est-à-dire que, bon, on n'est pas, c'est pas Dieu qui est avec la tentation contre nous, c'est Dieu qui est avec nous contre la tentation. Et puis le abandonne, et ben je trouve qu'il me fait écho pour moi à Jésus sur la croix qui dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc je trouve que ça fait écho à ça, ça me plaît. Cela dit, oui, ces prières, elles sont données pour qu'on les habite avec notre cœur, notre propre prière, dont vous pouvez dire un peu ce que vous voulez. Mais c'est vrai que le « délivre-nous du mal », je trouve qu'il il englobe ce « délivre-nous de la tentation ». Voilà. Parce que le mal, c'est cette tentation qui est en nous, c'est un des grands maux finalement qui est face à nous. Il peut y avoir aussi la détresse, l'angoisse, la dépression, la maladie, les méchancetés autour de nous, les trahisons, toutes sortes de choses qui sont dans ce mal. Et c'est vrai que ben voilà, des fois on a besoin, et je trouve que ce psaume l'exprime bien, on a vraiment besoin d'une aide, parce que on n'aurait pas la force en fait. Donc je crois qu'effectivement, prendre comme ça la prière et faire le tour de nos problèmes, de nos détresses, ce qu'on n'arrive pas à régler par soi-même, c'est important. C'est une... Alors, on le voit, dans l'histoire de Jéricho, ça ne marche pas tout de suite. Ici, on le voit aussi, bon, parce que si vous voulez, il y a marqué... où est-ce que c'est ? Il y a au verset 6. Éternel, c'est à toi que je crie, je dis, tu es mon refuge. Alors, ils ont mis un présent. Vous regarderez dans l'hébreu, ils ont mis un passé, vous voyez, j'ai crié vers toi. Et c'est vrai que c'est au passé. Hein ? Alors, ce qui est compliqué, c'est que des fois, il y a le « et » devant qui peut changer le passé en présent. C'est curieux. Mais là, il n'y a pas de « et » au début de « et j'ai crié ». Il n'y a pas marqué « et j'ai crié », il y a marqué « j'ai crié ». Donc là, ça n'a pas de doute, c'est du passé. Donc, alors, la traduction, ils se sont dit bah, « il a crié, il est encore en train de crier, donc je vais mettre au présent bah, ». Sauf que c'est au passé. Donc, il a crié, il a appelé au secours, et puis bah, ça n'a pas marché encore. Et il continue à prier. Et dans cette prière, il y a un peu comme le reproche de dire ben en fait, je t'ai déjà supplié pendant des siècles et tu n'as toujours rien fait, quoi. Donc il y a à la fois la fidélité de continuer à demander, continuer à tourner autour des murailles de Jéricho, et en même temps comme une plainte et une déception, si vous voulez, de Dieu qui n'a encore rien fait. Alors ça, c'est sur Internet, j'ai beaucoup de questions de gens qui me disent ben, « je suis déçu, la prière, j'ai prié, ma prière était légitime, elle était juste, elle était bonne, elle était sainte, elle était... » Ben oui, je veux dire, c'était... Voilà. Et puis ça n'a pas marché. Je ne suis pas exaucé. Ben oui, ça ne marche pas comme ça. Des fois, d'abord, parce que Dieu ne peut pas, si vous voulez, notre prière est légitime, on veut prier pour la guérison de quelqu'un, et puis ben voilà, la maladie est plus forte, ça peut arriver. Ben, ça peut arriver. Oui ?
L'obligation de résultat n'est peut-être pas obligatoire. C'est peut-être une manière aussi à la personne de vivre cette fidélité avec ce que c'est ça.
Ben voilà, je crois qu'effectivement, d'abord, on a le droit de se plaindre, on a le droit de se plaindre contre Dieu, on a le droit. Comme à un ami, on peut dire les choses comme on le pense, comme on l'a sur le cœur, avec confiance. On peut dire à Dieu, écoutez, je suis déçu, je t'ai prié, ça n'a pas marché, t'as rien fait. on a le droit de se plaindre. Deuxièmement, ça peut être l'occasion de se dire, bah, il m'a exaucé d'une façon que je n'ai pas su remarquer, et il y a eu un exaucement, et puis je suis passé à côté, j'attendais ceci, il m'a donné 20 fois plus beau, c'était cela, mais je n'ai pas percuté. D'autres fois, c'est que Dieu, bon, son action, c'est une dynamique d'évolution, donc ça s'inscrit dans la durée, ça s'inscrit dans un accompagnement, ça s'inscrit dans une évolution de mon être, des autres.
Peut-être persévérant.
Donc il faut être persévérant, et à mon avis, c'est ce qu'on voit ici. Il se plaint un peu d'avoir déjà prié et puis que ça n'a pas marché, mais il continue à prier.
Il fait remarquer que maintenant, il est très affaibli.
Il dit, ça rend... Je suis aux limites quand même.
Voilà.
Je suis au bout du rouleau, donc faut pas que tu... Enfin, si tu veux commencer à faire quelque chose, c'est le moment de s'y mettre. Non, mais c'est touchant, je trouve, parce que c'est bien ça, si vous voulez. Mais en même temps, il y a la certitude qu'à la fin, quand tu m'auras fait du bien, moi je mets « car tu me feras du bien », il y a cette sorte de confiance quand même que ça finira par venir. Alors plus ou moins, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que bon, on a des problèmes d'argent, il n'y a pas un sac d'or qui va nous tomber. Mais peut-être, ça peut arriver.
C'est dommage.
Moi j'attends d'avoir le ticket du loto gagnant, vous voyez, sans l'acheter, quand
moi,
il, tout d'un coup.
Je gagne toutes les fois la mise.
Ça, c'est pas mal. Mais moi, autant qu'à faire, je préfère trouver par chance le billet gagnant par terre, hein, ou que, emporté par le vent, flop, il se colle contre mes lunettes. C'est quoi ce papier? Bon, un ticket de loto, on ne sait pas, peut-être, puis c'est le ticket, le gros lot gagnant, avec 42 millions, dont je ferai profiter sûrement. La prochaine fois, il y aura des tartes aux framboises au lieu de... Voilà. Non, ça ne marche pas forcément comme ça, si vous voulez. Hein. Donc, mais tu me feras du bien, ça on peut le dire, c'est que de toute façon, Dieu accompagne et il y a un bénéfice, si vous voulez, dans la prière. Ce n'est pas simplement la méthode Coué en se disant « je présente mes problèmes, les exprimant ». Déjà, si vous voulez, c'est de l'auto-analyse et je vais mieux. Non, je pense que Dieu agit vraiment, qu'il a une forme d'exaucement, pas forcément ce qu'on attend, pas forcément aussi vite qu'on l'espère, mais il y a un véritable exaucement de la part de Dieu qui est en profondeur, qui est dans une illumination, qui est dans une force qui arrive, qui est dans un souffle, qui est dans un... Voilà, je crois vraiment. Et donc, peut-être ça, si vous voulez, c'est une différence, peut-être, ce type de prière, d'abord avec le bouddhisme, où, bon, il y a une détresse, il y a des difficultés de vivre, ça, on le sait tous, mais c'est plus dans la méditation, dans la sagesse personnelle, dans un rassembler ses forces. Ils sont plutôt dans le début de ce psaume, si vous voulez. Voilà. Dieu n'est pas présent, il y a sans doute du divin quelque part, mais il faut que je me dépatouille tout seul avec mes problèmes, par la sagesse, par le... Voilà. Là, il y a radicalement un appel à Dieu, à une puissance transcendante, extérieure, qui peut m'aider, voilà, qui peut être à notre secours. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est quand même une idée fondamentale de la foi biblique, donc juive et chrétienne. Je vois aussi dans ce texte une confiance en Dieu. Il n'y a pas marqué, contrairement à ce qui est indiqué à la fin, si vous voulez, « Fais sortir mon âme de la prison afin que je célèbre ton nom. » Alors les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. On a l'impression qu'il y a un petit chantage en disant, écoute, si tu arranges mes affaires, ben, je serai après, je pourrai te passer d'une pommade terrible, ça va être une opération marketing formidable pour toi. Donc bon, moi ça m'arrangerait bien que tu aides mes petites affaires. Cela dit, pour toi aussi, ce serait un plan génial, donc ça fait du gagnant-gagnant, bon, on peut faire équipe et tu peux me bénir en tant qu'affaire. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu du marchandage. Ça, ce serait quand même... Il y a des théologies comme ça, et ce n'est pas complètement faux. C'est-à-dire celui qui cherche le bien, qui se tourne vers Dieu, qui prie, qui est je pense qu'il embellit le monde autour de lui, donc il y a quand même une récompense, si vous voulez, à une vie qui est bien placée. Il y a une vie qui se porte mieux et qui est plus bienfaisante. Mais ce n'est pas du donnant comme ça avec Dieu. Donc, moi, je le vois plutôt, et vous le voyez un peu en face dans l'hébreu, si vous voulez, au verset 8. fais sortir mon âme de la prison. Alors c'est mon être, hein, c'est plus que mon âme. Hein. Pour célébrer ton nom, les justes m'entoureront car tu me feras du bien. Moi je ne vois pas, je crois qu'effectivement, si vous voulez, que Dieu quand il fait du bien, il célèbre son nom, c'est-à-dire qu'il manifeste son être profond finalement, vous voyez. C'est comme ça que Dieu est Dieu, c'est en faisant du bien, c'est pas du chantage, c'est juste, il a la conviction que Dieu est libérateur, qu'il est source de vie, donc s'il me libère et qu'il est source de vie pour moi, ben, en fait il exprime ce qu'il est, et donc l'action qu'il fait pour moi est une...
Les justes se réjouissent.
Et les justes se réjouissent de voir les actions de Dieu, de voir les bonnes choses. Et les méchants, ils vont être en deuil de voir que finalement, la justice, le bien l'a emporté. Mais je ne crois pas que ce soit du chantage, si vous voulez. C'est plus que Dieu exprime son être en faisant du bien. Et c'est une manifestation de son être dans le monde. Et puis voilà, c'est comme ça.
Dans le psaume 143, il dit « Éternel, rends-moi la vie ».
Éternel, rends-moi la vie, ressuscite-moi, voilà, c'est ça. Hein? Oui, c'est beau, on aurait pu prendre le 143 aussi.
J'ai lu les deux parties.
Oui, souvent, c'est bien de lire ceux qui sont à la suite, parce que des fois, c'est en plusieurs psaumes, l'histoire. Hein? Ça, c'est vrai. Alors, au début, je crie, au verset 2, je crie ce mot « crier », là. « Zaak ». C'est déjà même phonétiquement Zaak, si vous voulez, c'est une sorte de couac de canard un peu, vous voyez, qui exprime bien celui qui est frappé, qui peut presque plus parler, quoi, tellement il est saisi. Effectivement, c'est bien ce cri. C'est pareil, celui qui le lit en hébreu, il se rappelle cette histoire qui est parmi les grandes pages du catéchisme, à la fin du chapitre 2 du livre de l'Exode, où il y a marqué que le peuple hébreu est sous l'oppression, l'esclavage, les coups du pharaon. C'est une sorte de prière sans parole, c'est un cri de souffrance, si vous voulez, que Dieu entend. Et Dieu, avec le buisson ardent, donc avec Moïse, il va amorcer avec ce buisson ardent, cette lumière finalement, il va amorcer une délivrance de ces Hébreux réduits à l'esclavage, à l'incapacité de s'en sortir par eux-mêmes. Donc quand ils utilisent ce mot-là, si vous voulez, ils font écho à ce passage fondamental pour la Bible, de ce début du buisson ardent, voilà. Et ça, pour le lecteur en hébreu, ça fait écho. Et du coup, on se replace là, dans cette situation. Oui, je suis esclave, incapable de me libérer. Et je veux revivre, grâce à toi, cette libération hors d'Égypte. Voilà. Donc, il y a cet écho là aussi, très fort, d'un Dieu qui est libérateur. Alors, Je te supplie, c'est je demande grâce. J'ai écrit à côté parce que ce mot grâce, c'est un mot qui est très connu, un concept très connu dans la Bible. C'est celui de la grâce présidentielle. Ça existe encore, même jusque dans le droit français, c'est surréaliste, mais... c'est-à-dire c'est le droit divin de dire aux coupables, vous n'êtes pas innocent, mais vous êtes libéré. Sur le bon droit de Dieu, du roi. Et ça existe encore pour le président, la grâce présidentielle, qui peut décider que le président peut décider de libérer n'importe quel prisonnier, même le plus assassin. C'est comme ça. Et donc c'est ça qu'on fait appel. C'est-à-dire, c'est pas de dire, voilà, j'ai été bien sage, je t'ai bien prié, etc. Non, c'est... Je fais appel simplement à ton amour, voilà.
Est-ce que c'est pas la même chose que le kyrie? Qu'est-ce que ça veut dire le
kyrie? Le kyrie, c'est plutôt la pitié, quoi. C'est la pitié.
Le mot de grâce, parce que prendre pitié, ça m'a toujours gêné ce simple
français. Hein. C'est pas comme ça dans d'autres langues germaniques.
Ben en tout cas, c'est vraiment dans le grec, si vous voulez, hein, que le, par exemple, c'est tombe à genoux devant Jésus et dit aie pitié de moi parce que ma fille est malade et j'ai besoin d'aide. Donc c'est l'idée, ça c'est du pauvre qui supplie devant le riche, hein, qui a fait appel à sa générosité, finalement.
C'est la compassion.
Fait appel à la compassion, à la générosité, voilà. Au sentiment de compassion, d'amour, de compassion. Peut-être un peu, parce que là, la grâce, c'est vraiment royal, en fait. C'est plutôt là, c'est un roi qui fait grâce, parce qu'il peut... voilà, c'est à la bonne tête du client. C'est pas forcément de la compassion, c'est simplement... vous voyez, le président, il peut faire grâce sans aucune compassion, en se disant, c'est une bonne idée de le faire. Peut-être...
Il est libéré,
il est libéré, voilà. Il est gracié. Et c'est là, c'est une différence avec l'absolution, où l'absolution,
on efface.
Là, c'est pas vraiment... C'est juste la peine qui est effacée, mais pas à la fois la culpabilité, finalement.
Éventuellement, la déchéance presse, ça. Enfin, sauf si c'est un texte de grâce amnistie.
Voilà, il y a des grâces amnistiques, je sais pas très bien. Bon. En tout cas... Je présente ma requête devant lui. Donc là, faites la requête. C'est un chant, en fait. Hein. C'est un chant de détresse. C'est un poème, un chant de détresse. Hein. Et la détresse, vous voyez en bas, c'est sur le mot tsar qu'est être resserré. Alors effectivement, là, c'est aussi le cri où on est pris à la gorge. C'est l'angoisse, vous voyez, qui serre la gorge. On a le kiki serré, si vous voulez. Littéralement, c'est ça. Et rien que le mot, détresse, hein, tsar, c'est vraiment... On est, vous voyez, il y a le petit bruit quand on prend quelqu'un par la gorge. Et donc... effectivement, après, quand mon esprit, l'esprit, c'est mon souffle, en fait, hein, c'est le mot esprit et souffle, est abattu au-dedans de moi, ben oui, on a la gorge tellement serrée qu'on ne peut même plus prendre l'air et qu'on ne peut même plus exprimer sa voix, finalement, parce qu'on est trop... on a le souffle coupé, on a la gorge tellement serrée. Et donc, c'est un peu ça qui est exprimé ici. Alors ensuite, l'histoire du sentier... ça, je trouve que c'est assez beau. Toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je dois marcher, ils m'ont tendu un piège. Alors en fait, il n'y a pas marqué où je dois marcher. Je ne sais pas comment ils ont inventé ça. Moi, je vois où je marche. Donc, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Moi, je trouve que souvent, dans la Bible, il y a l'idée que voilà... Dieu éclaire notre sentier, c'est-à-dire qu'il y a une libération de l'homme pour qu'il puisse tracer son propre sentier, et ce Dieu qui nous accompagne sur notre route. Donc il n'y a pas une route où je dois marcher, vous voyez, où ce serait la bonne route et où que je suis. Et puis eux, ils ont tendu un piège dedans. Non, si Dieu connaît mon sentier, c'est que c'est pas parce qu'il l'a écrit d'avance. C'est parce qu'il nous suit, chacun d'entre nous, pour nous aider, nous assister, nous accompagner, nous éclairer. Et ça me fait penser donc à ce verset très connu, hein, le psaume 119, verset 105, « Ta lumière est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». On a tous entendu ce verset, il est souvent exprimé sur des cartes postales, des signets bibliques, des choses comme ça. C'est marqué des fois dans le début des Bibles. C'est l'idée, voilà, de ce Dieu qui nous accompagne sur notre sentier pour le mettre en lumière. Et donc, il le connaît, voilà. Donc, je dirais deux choses. D'abord, c'est que Dieu, même si on s'est écarté de notre sentier, vous voyez, du juste sentier, ben, il connaît notre sentier qui nous accompagne dessus. Et puis, deuxièmement, on ne prie pas pour faire apprendre à Dieu des choses. Tu connais mon sentier, tu sais où j'en suis, tu sais, voilà, les buissons qui sont devant, la bouche d'égout ouverte sous mes pas, Tu connais mon sentier, en fait. Donc je ne te l'apprends pas, mes détresses, mes difficultés, mon angoisse, mes soucis, mes difficultés à choisir. Mais c'est plutôt... ils m'ont tendu un piège, des pièges dans lesquels je suis peut-être tombé, dans le piège que je ne vois pas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc on demande à Dieu de nous éclairer, de nous accompagner, de nous porter sur ce sentier. Je trouve que là, il y a quelque chose qui se dit d'assez vrai, quoi, vous voyez, dans ce cheminement qui est proposé par la Bible. Comme, oui.
J'ai une traduction, oui, mais c'est « ils m'ont mis un lacet ».
Ah ben, ils m'ont mis un lacet.
Voilà.
Oui, alors c'est vrai que le piège, c'est pas forcément un piège à ours avec un trou avec quelques feuilles posées dessus qu'on voit pas.
On peut se prendre les pieds et s'en sortir.
On peut se prendre les pieds, voilà, dans ces lacets. Oui, c'est ça, ça peut être des ficelles mises en travers notre hôte, on se prend les pieds dedans et on se casse la figure. Donc c'est là qu'une lumière peut nous aider à enjamber ce qu'il faut. Hein. Donc encore une fois, là, c'est pas Dieu qui nous tente des pièges pour notre route, pour voir des tentations, voir si on va se casser la figure comme des examens. Au contraire, c'est Dieu qui est à nos côtés. Face au piège de la route. Alors, qui sont le « ils m'ont tendu un piège » voilà, c'est les méchants, c'est la nature, c'est ma nature, c'est la vie, c'est ma faiblesse, c'est mes défauts, c'est le mal multiple, sournois, piégeux, c'est les autres, c'est tout un tas de choses. Et c'est là que c'est bien que ce « ils » est très, très neutre. Il n'y a pas marqué « Saül m'a tendu un piège ». Le Saül, il a été enlevé, parce que bon, ensuite, nous, on pense à nos circonstances concrètes dans notre prière. Mais là, bon, il faut venir habiter ce « ils » avec nos ennemis, voilà.
Excuse-moi, la traduction, en aucun cas, ça ne pourrait pas donner quelque chose comme... ne nous soumets pas à la tentation, mais plutôt... Éprouve-nous dans la tentation, apprends-nous à résister à la tentation.
C'est nous rendre plus forts que la tentation, voilà. Qu'on ne soit pas enfermé dedans, qu'on n'y cède pas, c'est un peu ça.
Et délivre-nous du mal, ça, on pourrait avoir plutôt quelque chose comme apprends-nous à nous méfier du mal, ou à nous défaire par nous-mêmes du mal.
Oui, il y a ça aussi.
On pourrait le traduire comme ça.
Ça, tout à fait, oui. Oui, parce que délivre-nous du mal, donc c'est délivre-nous déjà, c'est une question d'enfermement, c'est comme ici, on ne peut pas se libérer par soi-même, on est enfermé dans quelque chose. Et puis l'idée, voilà, de Dieu qui nous donne cette liberté de.
Et sa force.
Et la force.
Et la force de son esprit.
Oui, parce que c'est ça, les barrières, les pièges, les prisons. Ça peut être des contraintes qui nous sont données, contraintes matérielles, psychologiques, mais ça peut être des barrières intérieures qui sont souvent les pires. Mais le manque de force en est un. Le manque de sagesse, le manque de réflexion, le manque d'éclairage, tout ça, c'est des emprisonnements dont ils sont difficiles de se sortir, d'autant plus qu'on ne sait peut-être même pas qu'ils existent. Nos préjugés, nos manques d'éclairage, c'est pas forcément facile de s'en sortir si on sait même pas qu'ils existent, en fait. Pour ça que c'est bien des fois que ce soit un peu général comme ça, pour laisser Dieu travailler dans un sens. Alors regarde à ma droite et vois, personne ne me reconnaît, toute fuite m'est impossible, nul ne s'inquiète de ma vie. Alors moi je mettrais plutôt tout refuge, parce que là la fuite... Comme après, il y a marqué « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge », je regardais tout refuge pour moi a disparu, parce que c'est le même mot, donc on reprend, vous voyez. Et des fois, on regarde à vue humaine, autour de moi, c'est un désert, quoi. Alors, je dirais au point de vue psychologique, parfois quand on n'est pas en forme, on ne voit même pas les mains qui se tendent autour. Donc des fois, c'est notre faute, si vous voulez. Ou des fois, quand on n'est pas en forme, on est tellement pénible qu'on a fait le vide autour de soi. Ça peut arriver. Je veux bien être dans la repentance par rapport à ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quand on se porte mal, tous les gens bien sympathiques qui nous adoraient quand tout allait bien, il n'y a plus personne. Oui, parce que ça fait peur, parce qu'on a déjà nos propres problèmes. Alors, ajouter ceux des autres en plus, des fois, ça fait trop. Donc c'est vrai que quand on est dans la difficulté, bien souvent, tout le monde s'est débiné et on se retrouve tout seul. Bah oui. Alors je crois que ça, on peut le dire, malheureusement. Hein. Donc il y a un peu les deux. Il y a un peu, voilà, celui qui se porte mal, il fait le vide autour de lui parce qu'il est maladroit, qu'il a les yeux fermés. Donc on demande un éclairage, peut-être, oui, qu'on voit mieux ceux qui sont autour et qui ont peut-être mille fois proposé leur aide. Et puis en même temps, ben oui, savoir que la vie est comme ça, ben, que les gens sont lâches et que nous aussi, ben, quand les autres se portent mal, des fois, on n'est pas assez présent. En ce moment, on en parle beaucoup, là, comment ça se fait qu'il n'y ait que des Américains qui soient comme par hasard précipités pour arrêter le gangster avec un pistolet.
Ben, il y a quand même deux Français.
Il y a un Français au départ.
Il y a peut-être un Français ou deux.
Il y a un Français.
Mais c'est vrai qu'on dit beaucoup, si vous voulez, que dans le RER, une femme qui se fait agresser, il y a tout un RER entier, personne bouge, tout le monde est caché. Bah oui, donc si vous voulez, aussi, on peut le prendre aussi pour nous-mêmes en se disant, bah oui, on a nos propres problèmes, on s'est fait engueuler par son patron, on est fatigué du boulot, une femme qui se fait agresser dans le RER, bah j'ai rien vu, au revoir, merci, j'ai pas fait de karaté, etc. Alors personne n'a fait de karaté. Personne n'est un Marines capable de désarmer un monsieur avec un. Hein. N'empêche que si on se mettait à 12 dans le métro, on arriverait quand même à avoir bon. Mais comme personne, il n'y a personne, bah oui, là, du coup, personne, voilà. Donc, je dis ça parce que c'est un exemple. C'est un exemple, mais c'est vrai que si oui, malheureusement, c'est trop commun.
Ah oui, c'est tous les wagons s'élèvent, par contre,
oui,
il n'y a pas de...
Quelqu'un qui dirait à haute voix, allez, on y va tous pour aider la fille qui se fait ennuyer, on y va tous pour aller en... Voilà, bah, je veux dire...
Le mec part. Hein.
Le mec part. Hein. Oui, mais personne ne se dit, bon, je vais lever ma gueule, je vais en prendre plein, pour pas un rond.
Ils sont pas l'intérêt des yeux.
Bon, alors là, c'est vrai que je suis d'accord, il y a un danger, donc je ne vous conseille pas forcément d'aller jouer les chevaliers blancs et les héros, c'est pas forcément une bonne idée. C'est à chacun de voir et de mesurer, non plus. Hein. Parce que dans aimer son prochain comme soi-même, il y a aimer son prochain, il y a aussi aimer soi-même. Il ne faut pas non plus être couillon et aller au casse-pipe pour rien, quoi. Donc je veux dire, donc c'est compliqué, on est d'accord. Mais quand même, ce qui est marqué là, je trouve que ça correspond quand même bien à la vie, quoi. Donc on est, je veux dire, bon, on n'est pas tout seul à vivre ça aussi. Ça, je ne sais pas que ça rassure, mais...
Quand vous dites aime ton prochain,